les informations à Diakipoukou.
Bienvenue à la première édition de Journal en français sur Radio Okapi. Tout de suite, les titres. Situation sanitaire préoccupante à Ouacha, à plus de 600 km au nord de Kisangani. Plus de 600 cas de méningite et un millier de personnes souffrant d'une diarrhée sanguinolente ont été dénombrées le mois dernier. Information livrée par le médecin chef de zone. À quelques jours de la campagne électorale, l'église catholique Sainte-Anne de Kinshasa s'implique dans la vulgarisation des élections. Elle a organisé un forum du 10 dès plus tôt au cours duquel les différents candidats présidents de la République présentent leurs idées. Hier dimanche, c'est le vice-président Azarias Roubéroy qui était l'hôte de ce forum. Nous irons également dans cette édition à Bounia où les agents de l'OCPT réclament des arriérés de salaire. Selon la délégation syndicale, cet argent serait bloqué à Kisangani. Mesdames et messieurs, bonjour. Situation sanitaire préoccupante à Ouacha, à plus de 600 km au nord de Kisangani. Plus de 600 cas de méningite et un millier de personnes souffrant d'une diarrhée sanguinolente ont été dénombrées le mois dernier. Le rapport sur cette situation a été présenté hier samedi à l'inspecteur provincial de la santé par le médecin chef de zone de Ouacha en mission à Kisangani. Ce médecin estime cependant que la prise en charge des malades n'aura pas d'effet efficace aussi longtemps que le problème d'eau potable et de l'insalubrité de sa zone de santé ne sera pas résolu. Explication avec Anselme Massois.
C'est surtout dans les 18 aires de santé autour des carrières de l'or que ces maladies se propagent, déclare le médecin chef des zones de santé de Ouacha. Selon lui, sa juridiction sanitaire est confrontée à plusieurs problèmes, notamment l'absence d'eau potable sur toute l'étendue de sa zone de santé, une très forte concentration des personnes dans les carrières de l'or, un déficit criant du personnel soignant. On ne compte que 100 infirmiers face à une population évaluée à plus de 120 000 personnes. Jeff Itama, médecin chef des zones de santé de Ouacha, lance un appel aux humanitaires.
Tous les organismes viennent, ils appuient seulement les zones de santé qui se trouvent ici, à Kisangani. Mais nous qui sommes là, il y a de vrais problèmes. Il n'y a pas d'eau potable. Pour le moment, dans le domaine de santé, les gens qui nous aident, ce sont les organismes internationaux comme MEDER. Et puis il y a d'autres qui sont ici, à Kisangani. Il y a aussi le fonds social. S'ils pouvaient arriver là-bas et résoudre ces problèmes d'eau, en construisant des puits, en réfectionnant l'hôpital général, ça serait une bonne chose.
José Bafoua, médecin inspecteur provincial, confirme cet état des choses. Pour lui, l'inspection provinciale appuyée par les ONG internationales MEDER et Malteser continue la prise en charge des malades. Cependant, il exprime une crainte. La fermeture des activités de ces deux ONG dans un mois risquerait d'aggraver la situation. Le médecin inspecteur provincial souhaite que l'ONG internationale 9MC qui va prendre la relève, termine vite les formalités avec le gouvernement central. Ceci pour éviter la rupture des prises en charge. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
À Mitwaba au Katanga, c'est plutôt la situation sécuritaire qui est préoccupante. Plus d'un mois après la reddition du chef Mai Mai Gédéon, la paix n'est pas complètement revenue dans les localités de ce territoire. Selon le chef du sous-bureau du PAM à Lubumbashi, qui vient de séjourner à Mitwaba, d'autres groupes Mai Mai continuent à tracasser la population. Ses habitants sont obligés de fuir leur village. Thomas Mokake au micro de Donat Chimboge.
Malgré la reddition de Gédéon, le chef Mai Mai, il reste encore deux sous-groupes de Mai Mai dirigés par Mokundu Lundu et Diseleti qui continuent à traiter des paysans. Et ces deux chefs Mai Mai ont autour de 700 à 1000 combattants. Ceux qui sont dans ce site ne veulent pas rentrer dans leur village d'origine à cause de leur sécurité. En discutant avec le sociétés administratives locales et Caritas. Les maisons des déplacés étaient brûlées par les forces combattantes. Les champs ont été pillés et brûlés. Et si les maisons ne sont pas reconstruites avant 16 juillet, il n'y aura pas de pain pour le faire. Et si les champs aussi ne sont pas travaillés avant août et semés juste après, il n'y aura pas de la nourriture pour ces personnes. Par conséquent, ces déplacés resteront en Mitwaba jusqu'à juin 2007 et le PAM sera obligé à les assister avec les alimentaires.
Début ce lundi à Kinshasa de la deuxième phase de rapatriement des déplacés de guerre. 1200 personnes vont regagner leur province d'origine, l'Équateur, la province orientale, ainsi que le Nord et le Sud Kivu. La cérémonie officielle du lancement de ce rapatriement a été organisée hier à Kinshasa. Cette opération a été initiée par la 5e communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique, CELPA 5, avec l'appui financier du gouvernement norvégien. Devant la modicité des moyens, le représentant légal de cette communauté, le pasteur Louamira Zakari, sollicite auprès du gouvernement et des agences des Nations Unies un soutien pour que ces déplacés de la guerre de 1998 retournent chez eux dans la dignité, suivant plutôt leur délégué Mugaja Soumaïli au micro de Nazer Nkoko.
Merci.
Nous remercions le gouvernement congolais, le gouvernement norvégien et l'église CELPA. Nous sommes nombreux ici à Kinshasa et nous souffrons. Parmi les déplacés, beaucoup meurent. C'est ainsi que nous demandons à notre gouvernement de prendre en compte notre souffrance. Nous sommes nombreux dans les familles à Kinshasa, mais aucun parent responsable d'une famille ne peut accepter d'accueillir chez lui les déplacés pendant 5 à 8 ans, surtout dans les conditions difficiles actuelles. On nous chasse. Parfois, nous passons la nuit à l'église, d'autres dorment dans les rues comme les enfants de la rue, alors qu'ils vivaient mieux chez eux.
Notez que la ville de Kinshasa compte environ 41 000 déplacés de guerre, mais pas plus de 5 000 déplacés ont été retournés dans leurs provinces respectives, a indiqué le ministre des Affaires sociales, Laurent Charles, OTT. Au nord Katanga, le jeune Jacques a été évacué samedi matin de Kalemi vers l'hôpital de Lubumbashi. Les différents détachements de la MONUC de Kalemi se sont mobilisés depuis mercredi pour tenter de sauver cet adolescent d'environ 15 ans, gravement blessé après être tombé d'un arbre à Nyunzu, une localité située à 200 km à l'ouest de Kalemi. Une opération qui revêt un caractère particulier au lendemain de la journée de l'enfant africain. François-Xavier Mibé pour les détails.
Jacques Kabamba a besoin d'une opération urgente pour qu'on lui retire le morceau de branche qui a transpercé son épaule lorsqu'il est tombé de l'arbre à Nyonzou, mercredi 14 juin 2006. Son cas est jugé grave, mais jusqu'à présent, tous les soins médicaux pour qu'il survive lui ont été apportés. L'ONG CAPED a pris le relais après l'assistance sur place de Médecins sans frontières. Selon le médecin, l'évacuation vers Lubumbashi était essentielle pour opérer Jacques. Il a décollé dès l'aéroport de Kalemi par un vol spécial affrété par la MONUC avec une partie de sa famille qui se trouve désormais avec lui à Lubumbashi pour l'aider à surmonter une opération difficile. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemi.
À quelques jours de la campagne électorale, l'Église catholique Sainte-Anne de Kinshasa s'implique dans la vulgarisation des élections. Elle a organisé un forum d'idées à la paroisse même. Au cours de ce forum, les différents candidats présidents de la République présentent leurs idées. Hier dimanche, c'est le vice-président Azarias Roubérois qui était l'hôte de ce forum. Selon le curé de la paroisse Sainte-Anne, cela devrait permettre aux chrétiens d'avoir une idée claire sur le profil des candidats aux échéances électorales et pouvoir opérer un bon choix. On écoute M. l'abbé José Moko, curé de la paroisse, au micro de Kéline Couté.
Nous avions la nette impression, d'abord en tant que commission des intellectuels, que nous étions sous-informés sur les enjeux de la transition, et même sur certaines questions d'avenir de notre pays. Et nous avions éprouvé le besoin d'avoir des informations sûres de la part des acteurs politiques de notre pays. Un autre constat, nous vivons régulièrement ici sur les boulevards des scénarios des rues, les politiciens qui récupèrent les chéguées et qui les font défiler moyennant un peu d'argent. Nous nous sommes dit que nous valons mieux que ces scénarios des rues. Si ces candidats ont vraiment des idées pour notre pays, ben qu'ils viennent dans une salle comme celle-ci, qu'ils nous exposent leurs idées, leurs projets de société et qu'ils répondent à nos questions.
Pour le vice-président Azarias Roubérois, c'est une bonne initiative de la paroisse Sainte-Anne. Grâce aux valeurs chrétiennes essentiellement à la bonne gouvernance comme méthode de gestion et grâce à ce genre de forum, le peuple congolais ne se trompera pas sur le choix du candidat à élire, a-t-il poursuivi. La Fédération nationale du théâtre FENAT Équateur n'est pas en reste. Elle a aussi décidé de préparer la population aux élections. Cette fédération compte expliquer le processus électoral aux populations de Mbandaka à travers le théâtre. Cette initiative résulte de l'entrevue que les responsables du FENAT ont eue respectivement avec la CEI Équateur et le secteur UN de la MONUC. Comment cela va-t-il se passer? La réponse dans ce reportage de Alphonse Wasso.
Il s'agit de livrer au public équatorien des pièces théâtrales qui les sensibilisent aux enjeux électoraux. En particulier sur comment voter, qui votait et sur l'importance du vote responsable. Pour ce fait, les 212 troupes théâtrales éparpillées à travers les 5 districts contre la province de l'Équateur devront désormais entrer dans la danse. Ce mercredi déjà, la Fédération nationale des théâtres Équateur lance un festival théâtral mixte, troupes indépendantes, universitaires et scolaires en bandaka sur le thème « Tous sur scène pour la paix ». À cette occasion, 7 spectacles seront donnés à la population de Mbandaka et de ses localités environnantes. Quel est l'essentiel du message lancé à travers les différentes pièces? Marius Bonana, président provincial de la FENAT.
Pour bien faire le choix, nous ne choisissons pas le candidat parce qu'il a suffisamment de moyens, mais nous devons tenir compte de ce que le profil du candidat.
Les troupes qui participent à ces festivals doivent se produire principalement à Lingala, Mbandaka, Alphonse Wasso, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, le président de l'Association des radios communautaires, Freddy Moulongo, satisfait du mouvement Radio Silence déclenché par l'ARCO. Pour Freddy Moulongo, cela a été une réussite pour la quasi-totalité des radios membres du réseau. Ce mot d'ordre lancé était une manière pour ses membres de protester contre l'arrestation de leurs confrères de la radio Concorde, Sosten Tambidi, à Chikapa, et le sabotage de la radio Tudjenge Kabambare par des militaires. Tu as un téléphone par Emenseya, le président de l'ARCO, affirme que son association exige que les auteurs répondent de leurs actes.
La journée Radio Silence a été respectée dans toute la République démocratique du Congo. On est allé au-delà de nos espérances avec Mbujimayi, à Chikapa, même à Lubumbashi. Les radios commerciales locales se sont solidarisées avec les radios communautaires pour faire Radio Silence à Bukavu, à Goma, à Rutshuru, qui ont observer dans la majorité des cas le mot d'ordre qui a été donné. Nous voulons que les capitaines Kengolengo répondent de son acte de vandalisme pour avoir cassé le matériel de la radio Tudjenge Kabambare et qu'il y ait quand même levé des charges par rapport à notre ami Sosten Kambidi de la radio Concorde à Chikapa qui a été chargé par rapport au tribunal de paix de Chikapa.
Dans le volet social, les agents de l'OCPT Bounia réclament 4 mois de salaire pour les retraités et 2 mois pour les agents effectifs. Selon la délégation syndicale de l'OCPT Bounia, cet argent est bloqué à la direction provinciale de l'OCPT à Kisangani pour des raisons qu'elle ignore encore. Le point avec Alain Irung.
Selon la délégation syndicale de l'OCPT Bounia, il s'agit pour les retraités des salaires des mois de décembre 2005, mars, avril et mai 2006. Pour les agents effectifs, il s'agit des mois de mars et avril 2006. Toujours selon la même source, la direction générale de l'OCPT a envoyé l'argent couvrant toutes ces périodes à la direction provinciale à Kisangani. Ces agents accusent le directeur provincial de l'OCPT, Mabangi Raymond, de détourner ses fonds à son compte. On écoute Kpoyo Munga Limbaya, délégué syndical. Kinshasa envoie cet argent à Kisangani. Le directeur provincial s'amuse avec cet argent qu'il utilise à son compte. Il a même acheté une voiture pendant qu'ici nous souffrons. À Isiro de même, l'argent n'arrive ni aux retraités ni aux fonctionnaires en service. Contacté, Raymond Mabangi, directeur provincial de l'OCPT, rejette ces accusations. Il indique que pour avoir la maîtrise de l'effectif, il a dépêché une mission sur place à Bounia et à Isiro. Le directeur provincial ajoute que selon le rapport dressé par cette mission, il n'y a que 3 agents effectifs à Bounia, 3 à Isiro et pas plus de 10 retraités. La plupart des personnes qui se plaignent ne sont pas des vrais agents. Il promet la paye des agents reconnus pour la semaine prochaine. De Bounia, Alain Irung, Radio Okapi.
Le campus de l'ISP Kikwito-Bandundu a été retapé. Le comité de gestion de cet institut supérieur vient de réhabiliter quelques salles de ce campus. C'est avec les moyens des bords. Cet établissement supérieur avait été détruit le 23 mars 2005 par une forte pluie. Malgré cette réfection, beaucoup reste encore à faire, à en croire le professeur Norbert Mouyolo, directeur général de cet établissement, Fabien Kambizi.
Oui, le corps au total était endommagé. Cette situation avait jeté plusieurs étudiants de la section sciences exactes de l'ISP Kikwito dehors que les travaux pratiques s'étaient arrêtés. Les laboratoires, celui de biochimie et de physique qui desservaient presque toute la conquête scientifique ayant été fortement touchés. Le matériel et les produits détruits. les grandes manifestations qui avaient comme cadre la salle polyvalente et les jolis restaurants de ces sites ont-elles aussi cessé car le délocalisme comptait parmi les victimes de ces sinistres. Et les autorités académiques n'ont pas tardé à tirer la sonnette d'alarme pour une intervention urgente, aussi bien du gouvernement que de bonne volonté. Des appels restés malheureusement sans suite, plus d'une année écoulée. Avec le moyen de bord et la puissance d'un parti politique, le comité de gestion a réussi quand même à réhabiliter les laboratoires et le bureau du département biologie.
Actualité internationale à présent, le gouvernement burundais et les forces nationales de libération FNL, dernière rébellion active au Burundi, ont signé dimanche à Dar es Salaam un accord de cessation d'hostilités. Les deux parties se sont engagées à signer d'ici 2 semaines un cessez-le-feu total après 13 ans de guerre civile. La première pierre d'une chambre forte destinée à stocker l'ensemble des variétés de semences végétales existant sur notre planète en prévision de possibles catastrophes naturelles ou nucléaires, va être posée ce lundi non loin du pôle Nord, décrit comme la chambre forte du jugement dernier, l'entrepôt fruit d'une collaboration entre le gouvernement norvégien et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, sera construit dans une montagne de l'archipel norvégien du Svalbard, au beau milieu de l'Arctique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.